Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour à tous, bonjour Alain, bonjour Brigitte.
Mais les maires ruraux sont présents. Bonjour.
De nouveau à notre émission. Donc, on va peut-être dire un petit mot sur l'actualité, parce qu'il y a un grand débat aujourd'hui sur la 5G, mais je crois qu'il y a des petits problèmes en Dordogne sur la 4G déjà et sur le numérique. Alors, est-ce que tu as des nouvelles ?
Alors oui, moi je suis quand même là, je suis bien impliqué dans ce problème-là, puisque je suis référent national pour la MRF au niveau de France Numérique. Et donc je travaille, je suis délégué aussi au syndicat mixte Périgord Numérique, dirigé par le département, par Germinal Perrault. Et en même temps, pour la téléphonie mobile, je fais partie de l'équipe projet de M. le préfet. Donc nous allons avoir des réunions bientôt, mais j'ai quand même des bonnes nouvelles pour la Dordogne, c'est que le sujet avance. Bon, il faut reconnaître que le département a pris les bonnes décisions. Et par contre, lors de la conférence des territoires qui a eu lieu la semaine dernière, j'ai posé quelques questions alors de forme et de fond, parce que même si le conseil départemental le syndicat mixte Périgord Numérique a pris les bonnes décisions avec ses élus, il y a quand même des manques au moins de communication, c'est ce que j'ai demandé. C'est-à-dire ce dont ont besoin les maires ruraux particulièrement, c'est d'avoir une feuille de route. Alors apparemment, Jean-Philippe Sottoni, le directeur du SMPN, enfin, syndicat mixte Périgord Numérique, a bien retenu. Et je pense que dès le 5 octobre, la prochaine réunion, nous aurons donc une feuille de route, parce qu'il est aujourd'hui plus qu'urgent que les maires n'aient pas une vision à 5 ou 6 ans de la pose de la fibre dans leur commune, mais qu'ils ont une vision à un an, deux ans maximum, de savoir un petit peu comment ça va se faire. Alors une deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on sait maintenant comment ça va se développer. Donc bien sûr, il y aura un premier et un dernier, mais il peut y avoir des premiers et des derniers. Pourquoi ? Parce que le développement va se faire en plusieurs phases, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs secteurs de démarrage. Ça veut dire que les entreprises vont démarrer globalement dans les quatre coins du département. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça permettra d'avancer les chantiers plus rapidement. Voilà. Ça, c'est au niveau
du numérique.
C'est au niveau du numérique. Et deuxième chose aussi qui est inquiétante, et il va falloir trouver une solution, c'est qu'aujourd'hui, il y a des réfections de bourgs, des bourgs-centres de communes rurales. Donc ces travaux-là, chaque fois, il y a Orange, France Télécom, il y a le SDE, il y a tous les organismes, et il manque le SMPN, le syndicat mixte Périgord Numérique. Donc là aussi, il est temps aujourd'hui de savoir qui pose les fourreaux, qui paye les fourreaux. Mais il ne faut pas refaire un bourg en globalité pour rouvrir la rue principale 5 ans après. Donc ça, c'est le deuxième sujet.
Là, je confirme ce que tu viens de dire. Moi, je suis en train de refaire mon assainissement. Il n'y a jamais été question de numérique. Or, le 4G est arrivé au répartiteur. Maintenant, quid de qu'est-ce qu'on fait ? Normalement, on doit être équipé en 2021. Mais jamais personne n'a parlé ni des travaux, ni s'ils commençaient ou pas. Moi, je vais éventrer mon bourg. Et numérique, là-dedans, eh bien, personne ne s'est manifesté, donc je ne sais pas.
Oui, parce que le principe, alors ça n'a pas été expliqué, ça l'est expliqué sur des papiers, mais bon, je profite de passer à la radio pour le dire, pour expliquer vraiment à la population comment ça se passe. À l'heure actuelle, on pose ce qu'on appelle un NRO, c'est un nœud de raccordement optique. Donc ça, c'est de là que va arriver la fibre et c'est de là que va repartir la fibre. C'est en définitive, comme en électricité, c'est le gros transformateur qui amène la fibre. Et après, derrière, il y a des répartiteurs qui vont être positionnés par secteur. Et de ces répartiteurs, vont partir les lignes vers les abonnés. Et c'est ces lignes qui vont partir vers les abonnés, c'est-à-dire les gens qui vont être intéressés par la fibre, auront après un boîtier devant leur maison, et ce boîtier, c'est de ce boîtier que partira leur branchement. Voilà un petit peu, en gros, décomposer comment ça va se faire. Aujourd'hui, en Dordogne, tous les nœuds de raccordement optique sont pratiquement tous posés. Donc vous voyez que ça a quand même avancé. Ouais. Mais maintenant, on est dans la deuxième phase. Il faut accélérer les choses. Voilà.
Donc pour être plus précis, pour que nos auditeurs comprennent bien, parce qu'entre le numérique, la 4G, la 5G, tout le monde est un petit peu perdu. C'est deux techniques différentes. Hein, y en a une qui est c'est des fils et l'autre, c'est des ondes.
Voilà, la 4G, la 5G, c'est par des pylônes. On la reçoit par, vous voyez, des pylônes qui poussent en ce moment comme des champignons en Dordogne. Alors pourquoi ? Là aussi, l'équipe projet, c'est complètement différent du syndicat mixte Périgord numérique, bien que ce syndicat en fasse partie. Mais la téléphonie mobile, aujourd'hui, la Dordogne était sous-équipée. Et puis là, il y a eu d'énormes efforts de fait. Notre grande surprise, on est en passe d'avoir 55 pylônes de posés sur le département, ce qui est assez... Avec la Creuse et l'Ardèche, on est le département le mieux servi à l'heure actuelle, et c'est normal, on peut comprendre. Quand on parle Dordogne, Creuse et Ardèche, on a bien compris qu'on était dans la ruralité. Donc il y a 55 pylônes qui sont en train de se poser. On les voit un petit peu partout. D'après ce qu'on sait des services de la préfecture et de l'équipe projet, il y en aura davantage. Je pense qu'on peut jouer entre 20 et 30 de plus, peut-être 40. Mais j'espère que d'ici 2 ans, la Dordogne sera bien desservie par cette téléphonie mobile où on mettra dessus la 4G en premier, parce que l'obligation du New Deal, on appelle ça le New Deal, c'est d'équiper toute la Dordogne de la 4G. Et ça, c'est par des ondes, comme tu dis, Gérard. Et la 5G, après, c'est un autre problème. Ça viendra derrière. C'est un autre débat.
Brigitte,
là, c'est un peu technique. Moi, moi, du moment que je décroche et que ça marche, c'est bon, quoi.
Non, c'est parce que nos auditeurs, il faut qu'ils comprennent, parce que ce n'est pas toujours évident.
Non, c'est
pour ça que j'ai voulu faire ce rappel, parce que c'est important de leur expliquer comment ça se passe.
Parce qu'actuellement, on nous parle beaucoup de 5G, mais il faudrait déjà que la 4G fonctionne et que la téléphonie marche également.
Donc, si on veut avoir de la 5G, il faut passer par la 4G.
Quoi. Voilà.
S'il n'y a pas les pylônes,
procédons par ordre.
Alors, il y a une autre chose très importante de ce New Deal qui a été initié par France Numérique, c'est que ça oblige maintenant sur les pylônes. Avant, c'était chacun pour soi. Aujourd'hui, les 4 opérateurs sont obligés de mutualiser ces pylônes pour mettre les 4 opérateurs sur le pylône. Ça, c'est la nouveauté, c'est primordial.
Ben, c'est des économies. Hein. Si on met un poteau pour chaque opérateur, voilà, quoi. C'est un peu de logique.
On va voir des ordres
partout. Ça correspond bien aux maires euros, c'est un peu de logique.
OK, on va peut-être aborder d'autres sujets.
Oui.
Qui sont un petit peu d'actualité. sur les dotations globales de fonctionnement, on pourrait peut-être y revenir.
C'est un sujet majeur aussi, parce que peu de gens le savent, même certains nouveaux maires. Aujourd'hui, comment vit une commune ? Une commune, elle vit par les dotations qui sont versées par l'État, alors bien sûr par les taxes, mais surtout aussi par les dotations versées par l'État, déjà dans un premier temps. Depuis 2014, cette dotation qui est donnée par l'État, qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, elle a diminué de 30%. Si je caricature, c'est comme si demain, votre patron vous disait, ben voilà, en 6 ans, tu vas avoir ton salaire qui va baisser de 30%. Voilà, et ben c'est ce qui nous est arrivé, les communes, et particulièrement les rurales. Et donc, moi, j'alerte et on se bat, la MRF, de façon à rétablir un certain équilibre, parce qu'il faut savoir, parce que c'est là qu'est le problème. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un habitant urbain est l'équivalent de 2 habitants ruraux. Je m'explique. Aujourd'hui, une commune rurale touche de l'État, en gros, 60 euros par habitant. Donc vous le multipliez par le nombre d'habitants, c'est l'enveloppe qui vous est attribuée. La ville de Bordeaux, elle touche, elle, 120 euros par habitant. Alors vous pensez bien qu'en plus, il y a beaucoup plus d'habitants à Bordeaux. Donc ça veut dire que, ce que je dis, l'équation, elle est bonne, c'est-à-dire qu'un urbain est égal à 2 ruraux. Et ça, moi, il me semble qu'à la façade des mairies, il y a marqué égalité, le mot égalité. Le mot égalité, ben, il n'est que sur la façade. Il n'est pas dans les faits. Donc ça, il va falloir y remédier. Et d'autant plus qu'ils se sont appliqués sur les mêmes méthodes pour ce qu'on appelle la dotation de solidarité rurale et la dotation de solidarité urbaine. La rurale, elle a 60 euros aussi par habitant, un peu moins, 54 euros. Et l'urbaine, elle a, elle, un peu plus de 100 euros. Toujours pareil, on est en rapport de force de 1 sur 2. Donc ce que nous demandons et ce qu'on se bat, nous, les maires ruraux et l'association des maires ruraux, c'est pour réduire cet écart. Bien sûr, on n'est pas fou, on n'arrivera pas à rattraper à parfaite égalité, bien qu'on ait besoin des services comme en ville. Mais on voudrait quand même réduire. Si on pouvait quand même réduire celle des urbains de 20 euros par habitant et récupérer 20 euros pour la ruralité, ce sont des investissements qu'on pourrait faire, qui sont quand même assez importants, et ça permettrait d'aider justement cette ruralité.
Ça permet de rajouter que les ruraux représentent 80% des territoires ruraux, c'est-à-dire de la surface de la France, et 30% des habitants quand même, c'est pas peanuts.
Ah non, c'est vraiment pas peanuts, comme tu dis, j'aime bien le mot.
Moi aussi.
C'est vrai que ça c'est prouvé, et c'est vrai que là-dessus il faut faire un effort particulier et... La grande victoire de la MRF aussi, parce qu'on est en train de le mettre en place, c'est donc l'agenda rural. Et on est très heureux de savoir que maintenant, enfin, on a un secrétaire d'État à la ruralité.
Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on entretient nos territoires ruraux et notamment nos 80% de surface pour mieux accueillir nos amis les urbains quand ils viennent en vacances et qui sont tout contents de retrouver des paysages et des salles de sport et des équipements d'étang ou de piscine ou n'importe quoi dans nos territoires ruraux. Donc il faut aussi la ruralité, il faut qu'elle soit équipée.
Mais il faut revenir un petit peu. Les équipements aussi, il ne faut pas oublier quelque chose, Brigitte, et aussi bien pour le touriste que pour l'habitant, c'est qu'aujourd'hui, les budgets de culture dans les communes sont trop faibles.
Non, c'est pour ça que je pense, quand tu as dit tout à l'heure que bon, ça serait bien peut-être de diminuer de 20 euros la dotation des
grandes villes.
Les grandes villes, je pense que. Ils en ont certainement aussi
besoin.
Je pense qu'effectivement, il faudrait augmenter la question de la ruralité des communes parce que...
Mais tu ne veux pas qu'on baisse celle des urbains
Oui, parce que bon, piquer à un pour donner à l'autre, c'est pas bon. Par contre, est-ce que ça aurait peut-être été intéressant dans le cadre du plan de relance du gouvernement de pouvoir augmenter les dotations aux communes, parce que c'est elles qui investissent et qui créent de l'emploi.
Déjà, si elles n'avaient pas baissé en 2014, on aurait 30% en plus.
Déjà. Mais alors, la question est bonne. Mais la question est bonne. Mais le plan de relance, est-ce qu'il est fait pour ça? Le plan de relance, c'est surtout pour les entreprises. Et c'est pour l'économie. Nous, ce qu'on parle, c'est pour du fonctionnement. Donc quelque part, oui, l'État doit mettre la main à la poche, mais en dehors des 100 milliards du plan de relance. Moi c'est à mon avis, c'est ça. Maintenant, bien sûr que si on prend 20 euros à la ville pour les donner à la campagne, bien sûr qu'on va avantager un pour léser l'autre. Mais jusqu'à présent, on était, nous,
les lésés,
oui. Et donc, quelque part, il y a ça aussi, il y a un terme de solidarité. Maintenant, il y a aussi la proportion. La proportion, il faut que dans cette proportion, j'ai dit tout à l'heure, si on fait un décalage de 20 euros, peut-être que la ville doit en donner 10 et l'État 10.
Après, bon, c'est question
de
voir, mais bon, c'est vrai que...
C'est une question de partage.
De partage, mais je pense que il y a, à mon avis, il y a de l'argent qui traîne. Et aujourd'hui, on sait que les communes, c'est des gros investisseurs.
Exactement. Il ne faut pas l'oublier, ça.
S'ils ont de l'argent, s'ils investissent, ça crée de l'emploi derrière.
Exactement.
Dans la situation actuelle, relancer l'emploi par les petites communes peut permettre peut-être... De maintenir l'emploi dans nos
emplois locaux.
Mais ça, c'est une évidence, c'est sûr.
Donc, on va faire une petite pause.
Oui.
On va reprendre.
À tout à l'heure.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. on est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ses bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Donc, nous allons continuer notre débat sur la ruralité. Plus précisément, on va parler un petit mot sur le projet de loi du gouvernement 3D, donc déconcentration, décentralisation et différenciation. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Mais déjà, c'est difficile
trois
à prononcer.
Trois mots à dire, ouais. Et puis à s'en souvenir, parce que la plupart du temps, on en oublie un. Donc,
Oui, oui, parce que c'est assez délicat. Mais bon, on va rester au 3D.
On est à l'image, oui.
Voilà, on va rester au 3D. Mais c'est vrai que c'est un projet de loi qui va un petit peu, si on comprend bien Jacqueline Gourault, notre ministre des Territoires, c'est que ça va vraiment impacter sur la différence qu'il y avait entre la ruralité et la loi NOTRe. C'est-à-dire qu'elle va reprendre à la loi NOTRe des actions qui seront menées sur les territoires. Donc on ne peut être que favorable à ça. Et c'est vrai que dedans, il y a plusieurs sujets. Il y a pas mal de sujets, d'ailleurs. Alors bien sûr, il y a sur le statut de l'élu. Mais ça, je pense que nos auditeurs ne sont pas trop, trop intéressés par ça. Mais il y a quelque chose qui me plaît bien, moi, c'est par exemple la décentralisation du tourisme. Et c'est vrai que quelque part, quand on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les communes rurales sont plébiscitées par les Français, parce que malgré la levée des restrictions de déplacement en Europe, bien sûr, on prend moins l'avion, mais il y a 93% des Français qui choisissent la France comme destination privilégiée pour leurs vacances. Donc ça, c'est quelque chose pour la relance du tourisme qui est super importante. En plus, les tendances de recherche montrent que les aspirations des voyageurs français ont changé et qui maintenant, ils privilégient un tourisme familial et de proximité. Donc familial, proximité, ça nous parle, nous, les maires ruraux. C'est quelque chose qui nous plaît. Et donc les Français vont revenir dans les campagnes pour passer des vacances au lieu d'aller se dorer ou se dorer sur les plages d'Ibiza ou de Grèce.
Donc on en revient à ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Ce qui est important, c'est donc les Français redécouvrent leur pays.
Oui.
Et donc l'importance d'avoir des beaux villages.
Et voilà, on
revient dans un cercle.
Il faut entretenir nos territoires.
Voilà, donc il faut de l'argent.
Et si on regarde un peu les émissions un petit peu sur ça, vous savez qu'il y a des beaux villages. Les plus beaux villages, il y en a beaucoup en Dordogne. Et donc la Dordogne, on s'est rendu compte à travers la crise sanitaire que la Dordogne est un des deux ou trois départements privilégiés pour les Français. Donc il faut que nous, on ait les moyens de bien les accueillir. Il faut qu'on ait les moyens de restaurer, bien sûr, non seulement des sites touristiques, mais aussi il faut travailler sur l'habitat. Il faut travailler sur les hôtels. Il faut travailler en fait tout ce qui concerne la restauration. Et aujourd'hui aussi, il y a quelque chose qui est en train de monter en pointe. C'est à travers les circuits courts. La restauration directe et les achats directs auprès de nos agriculteurs.
C'est ça, le maintien des agriculteurs en place.
Voilà, et dans le maintien de nos agriculteurs dans nos campagnes, c'est très, très important.
Ils ont de grosses difficultés. Je ne sais pas comment il va falloir prendre le problème, mais on a de moins en moins d'agriculteurs. On a des parcelles qui restent à l'abandon, qui sont fauchées une fois par an ou qui se referment. Nous, on a moi, j'ai une commune très boisée parce que j'ai 2800 hectares de bois, mais ça se referme hein, dès que on perd 20 à 30 hectares par an, et donc des forêts qui gagnent, donc de l'entretien en moins parce que un paysage travaillé par nos agriculteurs, ben voilà. Et puis aussi, il faut penser qu'il faut bien qu'on se nourrisse. Donc quelque part, on a besoin de nos agriculteurs.
Et c'est vrai que les forêts, si elles sont pas entretenues, on peut voir les dégâts que ça peut faire. Il suffit de voir ce qui se passe en Californie avec des forêts qui ne sont pas entretenues. Quand il y a l'incendie du réchauffement climatique, on peut perdre la beauté du manque d'entretien.
Chez nous, en Dordogne, et d'ailleurs dans d'autres départements, on a des pistes des FCI ou des chemins qui servent à la lutte incendie. Et il faut dire que ce sont les communes qui payent aussi la redevance aux SDIS, c'est-à-dire aux pompiers départementaux. Et donc, les maires ruraux que nous sommes cotisons tous à ça, et on sait très bien qu'il faut absolument qu'on lutte contre les incendies et qu'on lutte aussi contre les terrains non entretenus, les bois non entretenus, tout ça, c'est très, très important.
Alain ?
Oui, c'est super important, toutes ces choses-là, et c'est vrai que la MRF... par rapport au soutien qu'on peut avoir, il y a quelque chose quand même que les gens ne savent pas. Mais pendant cette crise, je suis allé voir beaucoup de maires ruraux qui étaient en difficulté par rapport à leur commerce. Et la MRF, on a fait un fonds de soutien où il a été récupéré 200 000 euros, qu'on a redistribué immédiatement auprès de petits commerçants et de petits artisans dans nos communes rurales pour leur distribuer un chèque de 1 500 euros pour avoir un de la trésorerie qui les a beaucoup, beaucoup aidés. Moi, dans le département, j'ai distribué 5 chèques. Donc, je peux vous dire que les maires, quand je suis arrivé avec le chèque de 1 500 euros pour un de leurs commerces, ça a été très, très apprécié. Ça, c'est de la solidarité.
Mais il y a beaucoup de maires aussi ou de présidents de communautés de communes qui ont fait des gestes envers, quand on a des locations, soit de restaurants ou de logements, qui ont fait des abandons de loyer en disant, écoutez, pendant ce confinement, vous faites cadeau des 2 mois de loyer. Ça a été aussi bien perçu. Hein.
Alors, en ce qui concerne les EPCI, les établissements publics intercommunaux, donc les communautés de communes et les communautés d'agglos, il y a eu aussi un élan de solidarité envers les communes rurales de leur communauté. Et moi, je vais prendre, pour exemple, parce qu'ils l'ont tous fait, mais je vais prendre celui que je connais, c'est-à-dire la communauté d'agglos de Bergerac. Le président a dégagé 500 000 euros sur ce plan de relance, sur les fonds de la communauté d'agglos, qui ont été redistribués sur des projets innovants, sur des projets même pas innovants, sur des projets qu'avaient besoin les communes. Et sur les 38 communes de la communauté d'agglo, chaque commune rurale s'est vu octroyer une aide de 13 000 euros. On a divisé 500 000 par 38, ça fait en gros 13 000 euros qui ont immédiatement dans l'année été investis avec des entreprises locales. Alors c'était la condition, des entreprises locales, pour pouvoir faire des investissements. Mais ça, ça a aidé beaucoup de petits artisans, quoi, parce c'est que des travaux de 13 000 euros dans une commune rurale, c'est souvent un bâtiment à revoir, c'est une cantine à refaire, c'est une porte d'église à repeindre, c'est des travaux, une aire de jeu à faire. Donc ouais. Voilà, ça a été très très bénéfique et ça a beaucoup aidé le monde rural.
C'est ça, il faut un soutien aux entreprises locales, parce que ce sont nos travailleurs, c'est nos habitants qui travaillent dans ces entreprises.
Et bon, les entreprises, mais aussi, bon, je pense qu'il y a une question qui est importante, il faut faire vivre ces entreprises qui sont au service des populations, les petits artisans, les plombiers, tout ça, mais on voit aussi que bon, dans notre département, nous avons beaucoup d'anciens qui sont en difficulté, et quelle politique on peut mener pour aider nos anciens?
Alors,
les anciens, tu veux dire les anciens artisans ou...
Non, les aînés.
Nos anciens aussi qui ont du mal à retrouver de la relève, et là, je pense qu'il va falloir faire appel un peu plus à l'apprentissage, parce que dans notre pays, est pas tellement. Moi, je pense qu'il va falloir revenir à l'apprentissage pour que les jeunes puissent prendre la suite des anciens. Alors, moi, je pensais que c'était les anciens.
Mais Gérard parle de ce qu'on peut faire pour aînés. Et c'est vrai que quelque part, malgré tout, dans nos communes rurales, on les connaît tous. À la mairie, je pense que Brigitte, tu connais tes aînés. Moi, je connais les miens. Et c'est vrai qu'on a quand même 11 conseillers municipaux. On les a alertés, on les a mis au travail. Et c'est vrai qu'il y a un élan de solidarité. Donc quand il y a un aîné qui a une difficulté de déplacement, quand un aîné a une difficulté d'aller faire ses courses, quand un aîné a un papier à remplir, il y a toujours un conseiller pour y aller. Il y a souvent des voisins.
Des voisins et la famille.
Voilà, il y a la famille. Le problème existe, mais on arrive à le résoudre au moins dans des campagnes comme la Dordogne. Maintenant, bon, ailleurs, je ne sais pas s'il n'est pas plus difficile, en définitive, d'être une personne âgée dans une grande métropole, parce qu'il n'y a pas de solidarité, alors que dans nos communes rurales, c'est ça la particularité, c'est qu'il n'y aura pas un voisin, il n'y aura pas une famille, il n'y aura pas un élu qui laissera tomber un aîné. Ça, ce n'est pas vrai.
Parce que bon, on voit bon, nos petits villages qui se vident, il ne reste plus que les anciens, donc difficulté à aller faire les courses, difficulté bon, pour se chauffer parce qu'il n'y a pas d'isolation, difficulté peut-être à monter à l'étage parce qu'il y a, quand on vient vu, il y a tous ces problèmes-là, et qui permettent par exemple à des artisans de pouvoir travailler. Il y a tout cet aspect qu'il faut prendre en compte par rapport à nos aînés, parce qu'on est quand même un département où il y a beaucoup de personnes âgées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes?
Mais il arrive des jeunes quand même. Il arrive des jeunes. Il faut parler des aînés, c'est vrai, mais il arrive des jeunes. Et d'ailleurs, c'est un exemple. Je suis en train de le lire dessous. Je ne le savais pas. C'est dans l'Ardèche que nous avons le plus jeune de maire de France. Il a 19 ans. Vous vous rendez compte, 19 ans. Il s'appelle Hugo. Eh bien, bravo. Et se présenter à une élection municipale dans un village rural à 19 ans. Moi, je lui tire mon chapeau. Et voilà, je lui tire mon chapeau. Et bravo. Il en faudrait davantage. Il aurait servir d'exemple.
Il faut des jeunes partout.
Donc, on va peut-être finir notre émission.
Oui, c'est dommage.
On arrive
il y a plein de choses à dire.
Mais sur cette petite nouvelle
optimiste
sur la ruralité et sur cette l'avenir. Jeunesse qui va prendre en main les affaires des campagnes. Et ben, je vous remercie à tous les deux.
Au
mois prochain, où on discutera certains sujets.
Alors, avant de finir, je voudrais quand même remercier Radio Libre Périgord, parce que ça fait des petits, comme on dit. Et j'ai été contacté par Radio 95 à Bergerac. Et alors, bien sûr, pas dans le même style, mais je crois que nous allons avoir aussi une émission sur le Bergeracois. Alors, si on pouvait recoupler un petit peu le haut du Périgord et le bas du Périgord, ça serait formidable. C'est dommage que Radio Libre Périgord n'aille pas jusqu'à Bergerac.
Bientôt, il paraît que ça va être numérisé.
Bon, mais on verra bien. Mais,
t'as de l'espoir. Je sais que notre mission
est appréciée, et c'est vraiment bien que grâce à Radio Libre Périgord, eh bien, aujourd'hui, on va faire des petits, comme on dit. Merci à RLP.
Au revoir.